RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Florent.
Bonjour Mathieu.
Comment allez-vous?
Bah très bien, en pleine forme, merci.
Vous me recevez donc ici au sein du restaurant Ma Langue Souris. C'est assez rigolo comme nom, Ma Langue Souris.
Oui, oui, oui. En fait, c'est un nom un petit peu humoristique, mais qui a une histoire. En fait, c'est en rapport avec une comptine que le chef racontait souvent à ses enfants. Et donc simplement l'histoire d'une maman qui raconte une histoire à ses enfants et en fait l'idée c'est qu'au moment du repas, quand la maman fait le repas aux enfants et qu'à la fin les enfants sont satisfaits et se sont régalés, en fait l'enfant dans la comptine dit à sa mère « ma langue sourit ». Voilà. Donc l'histoire vient de ça. Et donc il a nommé le restaurant ainsi, en espérant que les clients, lorsqu'ils ressortent, aient aussi leur langue qui est souris, voilà, de bonheur et qu'ils se soient régalés.
Vous parlez de régal, je pense qu'on y est complètement. Donc nous sommes ici à Moutfort, au Luxembourg, à quelques kilomètres seulement du centre-ville, dans une maison qui a tout de même ses deux étoiles Michelin depuis 2018. Très très belle maison.
Oui, exactement. C'est en fait, si vous voulez, donc le chef qui est d'origine française, originaire des Vosges. C'est quelqu'un qui a un long parcours gastronomique, qui à la base au début n'était pas cuisinier, il était charcutier, fils de charcutier également. Et puis il a quand même rapidement basculé dans la restauration et dans la gastronomie. Il a travaillé notamment un bon moment avec un très grand chef qui s'appelle Emmanuel Renaud. Chef triple étoilé au Flocon de Sel à Megève. Puis après, il a été un peu à l'étranger, à Londres. Puis, arrivé au Luxembourg, il a travaillé un bon moment, notamment au Royal, à l'hôtel Le Royal, en plein centre de Luxembourg-Ville. Et puis, arrivé à un moment, comme beaucoup, il a souhaité voler de ses propres ailes. Et donc, le restaurant a ouvert en 2008. Et ça a été assez rapide pour lui, puisque de mémoire, au bout de 3 ou 4 années, il a obtenu une première étoile, déjà, après l'ouverture. Et puis la deuxième étoile, effectivement, est arrivée en 2018. Depuis, on s'efforce quotidiennement de maintenir ces deux étoiles, en essayant d'assurer un niveau d'exigence qu'ils permettent.
Vous, Florent Lévy Bencheton, vous êtes, de ce que j'ai pu lire, vous êtes parisien de naissance, originaire de Montargis, donc plutôt dans le centre de la France.
Exactement.
Comment ça commence, cette rencontre avec le vin?
Ah, alors, c'est une rencontre qui est venue assez tardivement. Et un petit peu par hasard, j'ai commencé à m'intéresser au vin et à boire vraiment du vin à l'âge de 22 ans, donc assez tard. Et jusque-là, je ne buvais pas du tout de vin, pas d'alcool en général, tout simplement parce que je faisais en fait du sport plutôt à haut niveau, j'étais cycliste, sur piste notamment. Par pur hasard, j'ai des amis qui me proposent de passer un après-midi avec eux à un salon des vignerons à Paris, porte de Versailles. Et puis pendant ce salon, moi, je goûtais un peu de vin avec les amis. J'étais tout juste capable de me dire « Ouais, ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. » Bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti un peu bête par rapport à ces amis. Et je me suis dit « Bon, quand même, on est en France. Le vin, ça fait quand même partie de notre culture. » Et puis, par contre, intrinsèquement parlant, j'ai toujours quand même bien aimé manger et un tout petit peu la gastronomie, sans aller dans de la gastronomie de haut niveau. À cette époque-là, je suis étudiant à l'université, en droit, parce que j'ai fait des études de droit au début. Et donc, le premier réflexe d'un universitaire, quand il faut apprendre des choses, c'est effectivement d'aller acheter des livres. Sauf que, j'ai parfois un défaut, c'est que quand je mets le doigt dans quelque chose, dans un engrenage...
C'est le bras qui passe.
Le bras, il passe complètement. Et parfois, ça peut être un peu à l'excès. Et c'est ce qui s'est passé avec le vin, c'est qu'en fait, ça part de simplement, il faut apprendre un minimum de savoir. Et en fait, c'est devenu une passion. Alors au début, le Luxembourg, c'était pas forcément ce qui était prévu, mais le hasard de la vie fait que j'apprends qu'un poste se libère au restaurant Ma Langue Souris à Moutfort. Je vois que le restaurant a deux étoiles, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, d'assez prestigieux aussi pour moi, pour la suite. Et donc c'est pareil, je prends contact, je m'entretiens avec le chef, ça se passe très très bien. Et donc j'ai débuté ici, là, Ma Langue Souris, en juin 2022.
Quel est votre quotidien, en fait, ici? Comment se passe une journée type de sommelier? On se pose toujours la question s'il y a de la place un peu aussi pour votre vie personnelle dans toutes ces activités.
Oui, alors c'est vrai que les journées sont bien remplies. On arrive le matin, moi... une journée, par exemple une journée type où j'ai une coupure l'après-midi, bon j'arrive le matin autour de 9h30 en moyenne, parce que bon on peut pas se permettre d'arriver 10 minutes à midi moins 10, 10 minutes avant que les clients arrivent, il y a un petit peu de mise en place à faire. Donc on arrive le matin pour faire la mise en place des vins dans la cave du jour, mettre en place toute la verrerie, réceptionner, ranger les commandes, voilà un petit peu le travail en gros qu'on peut faire le matin. Et puis après bien sûr le service le midi, qui débute à midi ici, et puis bon autour de 15h30 on s'en va, on part en coupure. Pour souffler un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai mon assistant qui reste, lui, qui est arrivé un peu plus tard dans la journée, donc il prend le relais pour l'après-midi. Et puis ensuite, on revient à 18h30. Le service du soir commence à 19h. Et puis, on va jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture. Donc, quand le dernier client part, donc il n'y a pas une heure fixe. Mais bon, on peut dire qu'en général, en moyenne, ça fait un départ entre minuit et demi en moyenne, voilà. Quand il a fallu débuter le métier de sommelier et la restauration, dans mes 5 petites minutes de réflexion, à aucun moment, en fait, j'ai pensé à ce facteur-là, vie familiale. Je me suis pas posé la question de me dire « Ah, mais ça veut dire que je vais travailler le soir, je vais devoir travailler le samedi ». Tout ça, en fait, j'y avais jamais pensé, et j'y pense toujours pas vraiment. Et si on n'y pense pas, c'est simplement en fait parce que derrière il y a une passion, qui est le vin, voilà. Et ça, c'est le s'il y a quelque chose, je pense à retenir et vraiment à dire à ceux qui écoutent, c'est que le fait d'être passionné, c'est hyper important. Et pour moi, ça vaut n'importe quel parcours classique, n'importe quelle école hôtelière, n'importe quelle mention complémentaire sommellerie. Si on n'est pas passionné, à mon sens, on ne tient pas très longtemps. Et cette passion, c'est aussi ce qui, au quotidien, nous motive. C'est ce qui nous permet de tenir et d'avoir tout le temps envie d'apprendre. Parce que ce qui est génial avec le vin, c'est que c'est un domaine où on n'a jamais fini d'apprendre.
Cette passion que vous allez la partager avec nous, est-ce qu'on
avec
peut
plaisir.
Parcourir ensemble la carte des vins ici de votre restaurant ?
Comme souvent, elle débute par les vins effervescents. Donc tout d'abord, bon, bien sûr, la Champagne, qui reste une région de cœur. Ça a été un des premiers chantiers de la carte quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi. La partie Champagne n'était pas excessivement développée, avec plutôt des champagnes de maison, de très belles factures, hein, bien sûr. Mais la partie vigneronne était peu développée. Et donc ça, c'est vrai que c'est un des travaux que j'ai fait en arrivant, c'est de développer cette partie champagne et notamment sur l'aspect vigneron. Ce qui était très important pour moi, parce que moi, c'est vrai que, bon, comme beaucoup d'autres de mes confrères, le champagne, c'est vraiment... il faut vraiment le voir comme du vin. Voilà, et pas simplement comme un vin effervescent, festif ou d'apéritif. C'est du vin, avec des bulles. Donc ça ajoute au départ, peut-être quand on n'a pas l'habitude, une petite difficulté à la dégustation, à l'effervescence. Mais ça reste du vin avant tout. Donc, bien sûr, les gens ont tendance à le prendre à l'apéritif, mais on peut le prendre aussi pour le repas. Donc pour moi, c'était important quand même d'avoir une offre un petit peu plus développé là-dessus. Et puis après, bien sûr, le deuxième axe de la carte, quand vous l'ouvrez, c'est les vins du Luxembourg, évidemment, puisqu'on est au Luxembourg. Parfois, ça m'arrive d'avoir des clients qui, quand on propose différents vins, qui me disent « Ah non, pas de vin étranger, bon, je veux rester sur des vins français ». Je viens de dire, mais la France, c'est l'étranger, parce qu'on est au Luxembourg. Voilà, donc le deuxième pan, c'est le Luxembourg. Bien sûr, aussi avec des effervescents, avec des créments, puisque le Luxembourg est un pays qui produit quand même pas mal de vins effervescents et de créments, de très bon niveau. Soit, bien sûr, avec évidemment avec les cépages locaux, que peuvent être le Riesling, le Pinot Blanc, l'Auxerrois. Mais parfois vous avez aussi certains vignerons qui s'essayent un peu à faire des créments, on va dire un peu plus typés champagne. Donc quand je dis ça, c'est en travaillant des créments essentiellement avec du chardonnay et du pinot noir, qui sont les cépages qu'on retrouve aussi en champagne. Ça fait de très beaux résultats également. Et puis après, bien sûr, tous les vins tranquilles. Alors les vins blancs, bien sûr, les Riesling, les Pinot Gris, les Auxerrois. Mais pas que, il y a aussi des vins rouges au Luxembourg qui sont intéressants. Ça ne cesse de progresser à ce niveau-là. Les gens souvent, même les Luxembourgeois eux-mêmes, parfois ont des petits a priori sur les vins rouges du pays, en se disant « Oh non, bon, les blancs, oui, c'est bien, c'est bon, mais les rouges, non, c'est quand même moyen. » On est en train quand même de sortir un peu de ça, parce que bien sûr, bon, le réchauffement climatique, c'est un facteur non négligeable qui est vraiment réel, et qui, quand on est dans un pays quand même assez au nord comme Luxembourg, pour l'instant, le réchauffement, c'est plutôt vu comme une chance. Ce que se disent pas forcément des vignerons qui peuvent être à Bandol dans le sud de la France. Mais au Luxembourg, tout comme en Champagne d'ailleurs, le réchauffement climatique pour l'instant c'est bénéfique. Donc on arrive maintenant à faire de très beaux rouges. Je pense par exemple à des domaines comme Schmidt-Faul, à Hahn, bien sûr Henri Rupert à Schengen. Bernard Massard avec son domaine du Clos des Rochers vient de sortir en fin d'année dernière un pur pinot noir absolument superbe, qui n'a franchement pas grand chose à envier à des pinots noirs de la Bourgogne. Le Luxembourg, c'est un pays, selon moi, c'est un vignoble qui me fait penser un petit peu à la Champagne il y a 15-20 ans. C'est-à-dire un vignoble bon, dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qui est en train de se réveiller progressivement, notamment en observant ce qui peut se faire un petit peu ailleurs, dans d'autres vignobles, d'autres pays. Et petit à petit, ça bouge, et vous avez une part de vignerons bon, qui prend conscience qu'on peut faire de grands vins au Luxembourg. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas se faire de grands vins au Luxembourg. On fait d'immenses vins dans la Sarre, qui est à 35 minutes d'ici. On fait d'immenses vins dans la Moselle allemande, qui est à 1 heure. Même si les terroirs sont différents, puisque dans la Sarre et dans la Moselle allemande, c'est essentiellement de l'ardoise et du schiste, alors que quand vous êtes au Luxembourg, c'est ça qui est fascinant, vous êtes à 35 minutes, 1 heure, et il n'y a pas une dose de schiste et d'ardoise quand vous êtes au Luxembourg, mais ça c'est pas grave. Il y a d'autres terroirs hyper intéressants, des terroirs qui sont un peu plus profonds quand vous êtes dans le sud, du côté de Schengen ou Rhémiche, et puis plus vous montez, plus vous allez sur des terroirs un peu plus calcaires, un peu plus pauvres. Mais ça c'est justement, c'est très bien, ça fait la diversité des vins du pays. Mais en fait, il suffit juste de prendre conscience qu'on peut faire de grands vins et se donner vraiment les moyens d'essayer d'y arriver. Se dire qu'on va essayer d'un peu plus travailler, avec un peu plus d'attention, un peu plus de précision. Et vous avez des vignerons qui arrivent à faire de très très belles choses. Et pour moi, à mon sens, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et je pense que voilà, y a un mouvement qui va s'enclencher et qui va faire qu'on aura de plus en plus de très très beaux vins et de très beaux vignerons dans le pays. Donc ça c'est intéressant. Voilà.
Pour revenir à vos clients du quotidien, est-ce que c'est un défi toujours d'essayer de les surprendre ? On est quand même dans une catégorie de restaurants où on a une clientèle qui est très aisée, qui est potentiellement connaisseur du produit, qui va avoir aussi ses habitudes. Est-ce que vous mettez un point d'honneur à tenter la surprise, ou la surprise c'est pas forcément quelque chose de très bien vu ? Répondez-nous honnêtement.
Si, alors non, mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de restaurants gastronomiques. Vous avez une grosse partie de la clientèle, bon, effectivement, qui est une clientèle qui a un pouvoir d'achat assez fort, qui a une vision assez classique et traditionnelle du vin. Donc, bien sûr, si vous les laissez faire, naturellement, l'immense majorité d'entre eux va se tourner sur des grands classiques de la Bourgogne, notamment. Un petit peu du Bordelais, même si le Bordelais commence à avoir une place qui diminue un petit peu quand même d'année en année. Mais voilà, si vous les laissez faire, bien sûr, ils vont sur des grands classiques. Nous, notre rôle, en fait, le rôle d'un bon sommelier, c'est d'abord d'essayer de, dans un laps de temps qui est assez court, hein, parce qu'on n'a pas toute la soirée pour percevoir et appréhender le client, c'est d'essayer de rapidement de comprendre le client, essayer de comprendre un peu ses goûts, ce qu'il aime, et aussi essayer de voir si c'est quelqu'un qui vraiment veut rester dans sa zone de confort. Et si vous essayez tant bien que mal de l'en sortir, ça va pas bien se passer. Parce que dans sa tête, il va être en quelque sorte un petit peu braqué. Et quoi qu'il arrive, même si vous lui servez quelque chose qui objectivement est très très bon, dans sa tête, il y aura un petit accro. Et donc ça va pas aller pour lui. Donc quand c'est comme ça, ça sert à rien de brusquer et le laisser prendre sa petite Madeleine de Proust classique, mais qui va lui faire plaisir et lui faire passer un bon repas. À côté de ça, vous avez quand même toute une partie de clientèle quand même qui viennent au restaurant et qui sont quand même des gens qui sont là pour être un petit peu surpris et découvrir des choses. Donc les gens viennent pour être surpris à ce niveau-là dans l'assiette, et donc en parallèle, ils ont aussi envie où ils acceptent en tout cas d'être surpris dans le verre également. Même si leur idée de base n'était pas forcément celle-ci, on arrive vite à percevoir des gens qui potentiellement sont ouverts à la découverte. Et alors quand vous avez des gens comme ça en face de vous, c'est là où c'est le plus intéressant. Parce que justement, bah là, notre but, c'est d'essayer de les sortir des sentiers battus et de leur faire découvrir des vins que eux, de eux-mêmes, ne seraient pas allés chercher, voilà, et n'auraient pas soupçonné. Voilà. Et quand après, donc vous faites ça, vous servez quelque chose qui les sorte de leurs habitudes, et quand derrière, vous avez le retour du client qui est content, qui est satisfait et qui se régale, voilà, ça, c'est la plus belle des récompenses. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pas tellement pour servir des grandes étiquettes classiques, des grands châteaux bordelais ou des grands domaines bourguignons. Bien sûr, quand vous avez des clients qui vous commandent des grandes bouteilles comme ça, vous êtes content. Pour moi, la plus grande satisfaction et ce qui est le plus chouette dans ce métier, c'est quand vous faites découvrir des choses et qu'en face, le client est content. Voilà. Et vous remercie pour ça, en fait.
Pour cela, je vais vous demander de me citer 3 coups de cœur que vous auriez ici, au restaurant, sur la carte, ou même ailleurs. Des vins vraiment qui vous ont marqué, soit par leur qualité, soit tout simplement par la surprise qu'ils auront su occasionner.
Je vais citer un pinot noir, un vin rouge du domaine Schmidt-Fall, donc qui est un domaine qui est dans le village de Hahn, au bord de la Moselle allemande, juste en dessous de Grevenmacher. Et donc c'est une cuvée qui s'appelle SF, Pinot Noir, SF pour Schmidt-Fall. Et à mon sens, c'est peut-être le plus beau vin rouge du pays qui se fait en ce moment. Là, c'est sur le millésime 2022 qui était actuellement en commercialisation. Et c'est un Pinot Noir qui n'a franchement mais rien à envier à des Pinot Noirs bourguignons. Vin dans lequel vous avez de la matière, un nez, vraiment un très beau nez de Pinot. Vous avez vraiment avec un très beau fruit. Un petit peu d'élevage et de bois, mais simplement en support, voilà, parce que le défaut qu'on peut voir des fois dans des régions viticoles qui sont un peu compliquées pour les vins rouges, c'est de vouloir en faire un peu trop avec le bois, justement pour compenser éventuellement un déficit de matière. Et là, c'est pas du tout le cas, parce que de la matière, il y en a beaucoup dans le vin, donc le bois, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, juste en support. Ça, c'est vraiment un vin rouge que j'invite à faire découvrir aux auditeurs, pour leur montrer que le Luxembourg est capable de faire de grands vins rouges. Une région aussi que j'aime bien faire découvrir aux gens, notamment dans les accords, c'est le Jura. Le Jura, parce que bon, quand vous prononcez le mot Jura souvent auprès des clients, ils ont souvent les poils qui se hérissent, parce que leur cerveau fait tout de suite l'association au vin jaune, évidemment, qui est le grand vin du Jura. Et le vin jaune, c'est vrai que c'est un vin oxydatif, donc très atypique et très clivant pour les gens. Voilà. Et souvent, vous avez quand même une bonne part de gens qui n'aiment pas trop les vins jaunes, voilà, qui sont un peu rebutés par ces arômes de noix, de curry, très oxydatifs. Mais dans le Jura, on ne fait pas que des vins jaunes et des vins oxydatifs, on fait aussi ce qu'on appelle des vins houillés. Le houillage, hein, c'est l'action de remettre du vin régulièrement dans une barrique pour que le niveau dans cette barrique soit toujours plein. Ce qu'on fait en réalité quand on fait n'importe quel vin dans le monde, sauf quand vous faites des vins jaunes, où on ne fait jamais ce houillage. Donc quand vous ne faites pas le houillage, quand vous ne remettez pas de vin, naturellement le vin s'évapore un petit peu dans la barrique, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Donc le niveau diminue, et donc avec ce niveau qui diminue, vous avez un vide d'air qui se crée dans la barrique, et avec ce vide d'air, il y a un voile de bactéries qui vient se déposer sur le vin et qui l'oxyde. Voilà. Donc c'est pour ça que le vin jaune, qui n'est pas houillé, à ces arômes d'oxydation. Mais quand vous goûtez des vins du Jura houillés, donc non oxydatifs, vous avez des choses que l'on peut faire, notamment avec le Savagnin, hein, qui est la variété utilisée également pour faire des vins jaunes, vous avez des choses magnifiques. Et par exemple, vous prenez un Savagnin que je faisais au verre encore il y a peu, du domaine Pigné, domaine qui est dans l'appellation Côte du Jura. Là, le Savagnin, quand il n'est pas oxydatif, ça vous donne des vins avec de très belles notes florales, bien sûr aussi des très jolis fruits, autour des fruits blancs notamment, avec petits arômes, petits goûts de noisettes également en bouche. Mais ça fait des choses vraiment formidables et qui se marient très très bien avec la cuisine. Et souvent quand on fait goûter ça aux gens, au début, bon, ils partent un petit peu réticents, et en fait, ils s'aperçoivent très vite que, bah non, on fait aussi de super vins dans le Jura, voilà. Et le dernier vin que j'aimerais citer, on va quand même citer un vin effervescent, mais luxembourgeois. Je voudrais aller vraiment au sud de la Moselle luxembourgeoise, à Schengen, avec un crément, qui est un crément du domaine Zünen Hoffmann, qui a sorti il y a à peu près un an un crément brut nature, donc c'est-à-dire un crément non dosé avec zéro sucre ajouté, qui est majoritairement fait avec du chardonnay sur une base de vendange 2020, et c'est un très très beau crément, très fin, très frais, avec une très belle minéralité, et qui franchement n'a pas beaucoup de choses à envier à certains champagnes également.
Merci beaucoup Florent de nous avoir fait partager cette passion. Je le rappelle, vous êtes donc sommelier ici dans le restaurant Malanxouri à Moutfort, et ses deux étoiles Michelin, avec de très très beaux breuvages à découvrir, qu'ils soient luxembourgeois ou pas d'ailleurs.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Merci à vous. Bonne
au revoir.
Merci, au revoir.
La route des vins du Luxembourg.